Me
Judaïka. Une heure de musique sans pub.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 3 octobre 2022, il est 20h. 20h. Et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation. Et voilà, quel retour, un bon retour, ça fait plaisir de revenir et de vous retrouver après cette longue trêve internationale et à la veille du retour des Coupes d'Europe. Et puis on a eu un beau week-end sur le plan domestique, enfin ça dépend pour qui. Ce soir, à mes côtés, oui, ça dépend vraiment pour qui. Il aime, je peux pas penser qu'il n'aime pas au fond de lui un peu souffrir, puisqu'il a choisi de revenir ici au lendemain d'une défaite, alors qu'il avait 4 semaines de victoire pour revenir, et pourtant, bah, il est quand même là. En tout cas, moi je suis ravi de retrouver mon camarade de jeu, Steve Gris.
Bonjour Sam, tu entends cette musique?
Oui.
Bah, tu ne souffres pas quand tu l'entends, tu vis, et tu vis et tu vibres.
C'est beau, écoute, on a vibré, on a surtout du côté de Serein, mais enfin voilà, on va te laisser profiter un petit peu de ton hymne. Je disais, tout le monde va bien, tout le monde, ça dépend. Hein. Il y en a qui vont comme Steve et d'autres qui vont bien mieux. Et oui, il n'a pas pu être avec nous, mais la magie de la technologie nous permet de la voir. Ouais, oui, forever. Nous permet de la voir par Skype. C'est Didier Cohn, bien sûr, qui n'aurait pas loupé une émission où on va forcément beaucoup parler de son club, le club de Bruges. Salut Didier, ça va?
Ça va super bien. Bonsoir Sam, bonsoir Steve et bonsoir à tous.
Eh bien, ça nous fait plaisir que vous soyez là tous les deux. On va bien sûr parler de Jupiler Pro League, des autres championnats et surtout des Diables Rouges qui ont illuminé pour certains ce week-end. On pense à un certain joueur qui joue en couleur bleu ciel du côté de Manchester, qui n'en finit pas de régaler le monde entier. On en parlait juste avant de prendre l'antenne. Chaque semaine, c'est un peu plus. Et le récital de De Bruyne a été impressionnant. Alors bien sûr, on va parler football. On va parler de la joie que nous procure ce sport, des émotions également qu'il nous apporte, mais on ne peut pas nier la réalité et passer sous silence le drame qui s'est produit ce week-end dans un stade indonésien, puisque l'Indonésie a vécu l'une des pires tragédies jamais survenues dans un stade. On parle de 174 personnes mortes dans un mouvement de foule à la suite de l'envahissement du terrain par les fans de l'équipe d'Arema FC qui venait de perdre contre son grand rival 3-2, l'équipe de Persebaya Surabaya. C'était la première fois en plus de 20 ans qu'il perdait et visiblement les supporters l'ont très mal supporté, ils sont descendus sur le terrain. Et puis les policiers ont voulu les persuader de regagner les gradins, ils ont alors tiré des gaz lacrymogènes après toutefois que deux policiers soient morts dans un début d'échauffourée. Des nombreuses victimes ont été piétinées puisque malheureusement avec les gaz lacrymogènes tout le monde est parti au plus pressé et certains se sont retrouvés bloqués par la foule et donc les morts se sont accumulées. C'est assez terrible de se dire que ça peut arriver encore de nos jours. On se souvient évidemment plus qu'ailleurs ici du drame du Ezel en 85. On se souvient aussi du mouvement de foule de Hillsborough en Grande-Bretagne qui avait fait 97 morts du côté des fans de Liverpool. Il y a également en Égypte en 2012 à Port Saïd 74 morts. La plus grosse catastrophe dans un stade remonte à 1964. C'était 320 personnes qui avaient perdu la vie au stade de Lima au cours d'un match de qualification entre le Pérou et l'Argentine. Je ne sais pas si l'un de vous deux a quelque chose à dire. Steve, tu veux commencer ?
Mais je pense que tu l'as parfaitement introduit. Le football, c'est à la fois ce qu'il y a de plus beau quand on est passionné, au niveau de l'attachement, au niveau des émotions qu'on peut vivre. Mais ça génère aussi les sentiments, des fois, les plus bas, et engendre les plus grandes tristesses. Moi, j'ai ce souvenir très, très présent de... j'aimais beaucoup le football quand j'étais petit, et mes parents refusaient de m'emmener au football en étant traumatisés par le Ezel. Et en estimant qu'un jeune garçon n'avait pas sa place dans un stade. Ben, c'est précisément ça, ce qu'on déteste le plus dans le football. Un jeune garçon, il a toute sa place dans un stade, parce qu'il vient voir sa passion, il vient voir ce qui brille dans ses yeux. Il vient voir ce qui lui plaît, ce qui lui fait vibrer chaque week-end. Et de savoir que le football peut engendrer, par des gens stupides vraiment, une telle haine qu'il engendre par le mouvement de foule, parce qu'on est dans un endroit qui est clos,
ouais,
et collectivement qui peut engendrer, alors en cas de mouvement de foule, de graves problèmes, ben c'est d'une tristesse
ouais,
absolue.
Infinie.
Ce n'est pas totalement la même chose, mais il y a quand même un lien, je pense aussi au mouvement de racisme qui ont eu lieu à l'Antwerp ce week-end, de nouveau, avec des personnes de couleur noire qui se font insulter pour leur origine. Ben voilà, des mouvements de racisme, des mouvements de haine, des mouvements collectifs qui peuvent engendrer des préjudices directs et des graves blessés ou des morts pour les personnes. C'est là que le football, c'est ce qu'on déteste le plus. Et ça fait 20-30 ans depuis le Ezel qu'on essaye de... On reconstruit ça. En Belgique, en Angleterre, où le hooliganisme était absolument horrible, où il y a une tentative de reconstruction de ça, mais il n'y a rien à faire. Le mal est encore là. Et c'est d'une tristesse absolue quand on voit ce qui peut générer comme drame, comme ce week-end.
Oui, j'ajouterais juste, après je te donne la parole à Didier tout de suite, tu parlais donc des incidents racistes de l'Antwerp. Il y a eu également en Australie, c'était la finale de la Coupe d'Australie, et sorti vraiment de nulle part, les supporters d'un club de Sydney, les supporters d'un club traditionnellement croate, ont cru bon faire des saluts nazis et exhiber des signes nazis, et notamment lors de la bienvenue, qui est une tradition indigène d'Océanie, qui est habituellement fort respectée. Et là, bah, ces idiots ont fait des saluts nazis et exhibé des symboles nazis. Oui, Didier, tu voulais intervenir ?
Ben oui, je ne peux que cautionner ce que vous dites, forcément, parce que oui, quand le sport rejoint l'horreur, c'est juste insupportable. Par contre, je voudrais revenir sur ce que Steve disait, et à juste titre. Il parlait d'écart raciste à l'Antwerp, et ce n'est pas un cas unique. Hein. Dans les stades, il y a toujours des décérébrés, ça on le sait. Si les supporters étaient tous des prix Nobel, ça se saurait. Mais d'un autre côté, et je voudrais revenir là-dessus, quand Steve dit que ça fait 20-30 ans qu'on lutte, le Ezel, ça, dans 3 ans, ça fera 40 ans déjà, ouais, parce que ça passe très très vite. Par contre, ce que je note moi, c'est que, je suppose que vous aussi, vous regardez la télé, quand je vois des matchs de Première Ligue, ce sont des stades qui n'ont rien à voir avec nos stades à nous, les supporters sont à 2 mètres des joueurs qui font les remises en touche, et j'ai l'impression, moi, qu'en Angleterre, alors que c'est quand même des foot-foot, hein, c'est le berceau du foot, eh bien, ils sont parvenus quasiment à éradiquer ce phénomène d'hooliganisme. Tu n'as quasiment plus jamais... bon, il y a peut-être toujours une bagarre dans un café ou l'autre, mais c'est plutôt le fait de gens imbibés. Mais dans les stades proprement dit, je pense qu'ils ont réussi à faire la grande lessive. Et je ne comprends pas pourquoi dans nos pays, que ce soit la Belgique ou la France, hein, Blaise n'est pas là, mais à Marseille, ça chauffe, à Nice récemment,
ouais,
etc. Donc je pense qu'il y a des leçons à prendre en Angleterre, quand on sait aussi que les policiers anglais ne sont pas armés. Donc je veux dire, il y a quand même des leçons à prendre. Et moi, ça m'interpelle. Je me demande pourquoi, voilà. Si on
je crois qu'il faut un, malheureusement un drame pour que on réagisse.
Sam, excuse-moi.
Non, mais t'as raison.
Suffisamment. Les drames, alors là,
non, mais par exemple, l'Angleterre, on parlait. Alors, le Hazel, effectivement, le Hazel a eu les conséquences que les clubs anglais ont été exclus pendant 5 ans, Liverpool 6 ans. Ça a commencé le travail de dans les stades où on a enlevé les places debout à la création de la Premier League, on a monté les prix et on a surtout fait le ménage. Les Anglais, c'est effectivement très parlant. Moi, je vais juste. Le PSG que je supporte avait pendant de très nombreuses années deux côtés. Il y avait le COP qui était à Boulogne, qui était traditionnellement, on disait, des fachos, des racistes, des antisémites. Et puis Auteuil, qui était plus bon enfant, plus métissé, comme on dit, mais qui est né après. Donc il y a toujours une petite rivalité. Et puis il y a eu un drame, deux drames. Il y a eu un mort autour du Stade de France et il y a un plan qui a été pris, pardon, du Parc des Princes. Comment est-ce que je peux confondre les deux? Il y a un plan Leproux qui avait été pris, qui a consisté à virer les supporters, c'est-à-dire ne plus vendre d'abonnements dans ces tribunes. Eh bien, on se rend compte, ça a été mauvais pour l'ambiance, mais il n'y a plus aucun facho, en tout cas dans le stade. Je ne veux pas dire qu'on est plus en sécurité nécessairement, parce qu'il y a plein de types, enfin le stade attire des gens, mais il n'y a plus en tout cas ces fachos et plus normalement de salut nazi comme il y avait pu en avoir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu, il y a bien eu un drame. Et tant qu'il n'y a pas un drame, j'ai l'impression que les gens ont du mal à réagir. Oui, Steve.
Pour le football anglais, je suis assez d'accord avec Didier. C'est vrai que c'est assez interpellant quand on voit les images dans le stade de cette ferveur.
C'est une communion, en fait. Et je pense qu'ils ont réussi en 40 ans. Et je pense qu'ici, on est toujours trop frileux pour des raisons que je n'ai même pas envie d'essayer d'explorer, parce que c'est toujours, je suppose, l'offre et la demande. Mais en Angleterre, je pense qu'aujourd'hui, quand tu vois qu'un gars qui court à poil à travers le stade, eh bien, on ne lui donne plus la FIFA et l'UEFA et la Ligue anglaise, eh bien, on ne le montre plus à la télé. Et puis, dès qu'il se fait choper, le mec est interdit de stade à vie. Et je pense qu'il y a des mesures drastiques à prendre parce que c'est juste insupportable et nauséabond. Et je ne parle pas que des saluts nazis. Et je pense simplement que des cris de singe dans un stade de foot, c'est juste invraisemblable. Et j'irai même plus loin. On a taxé le club de mon cœur, tu le sais, Bruges. Il y a eu plusieurs... épisodes où on les taxe de racisme, etc. Et chaque fois qu'on me dit « oui, ils ont fait des cris de singe pour tel ou tel joueur », alors évidemment, c'est condamnable et c'est juste insupportable. Mais d'un autre côté, je me demande, ces gens-là qui font des cris de singe dans l'équipe adverse, ils ont dans leur rang la moitié de l'équipe qui est également...
Aucune cohérence.
Oui, la cohérence. Il faut savoir que Lamkanzé, donc, il s'est fait insulter par les supporters de l'Antwerp, qui était son ancien club. Pour revenir à ce que je disais...
Pour le coup, après, je n'ai pas vu les images, mais j'en ai lu ce que j'en ai lu. Lamkanzé, c'est Lamkanzé.
On ne touche pas à une icône de l'émission. On en parlera en son temps.
Voilà, mais il a... Je ne veux pas dire qu'il a provoqué, parce que c'est juste inexcusable.
On en reparle. Steve, d'abord, tu voulais...
Je suis entièrement d'accord avec le constat de Didier sur l'Angleterre. Peut-être deux choses. La première chose, je trouve que... Et là, je suis entièrement d'accord. Ils agissent clairement. Il y a eu des actions. Et c'est là peut-être un petit point de désaccord qu'on a déjà eu dans les précédentes émissions avec Didier. C'est que moi, je trouve qu'en Belgique, et son club de cœur notamment... Non, et je parle de tous les clubs, mais les derniers exemples ont montré que son club de cœur, le club de Bruges, était dans les spotlights sur ces questions. On n'en fait pas du tout assez. Quand il y a eu l'épisode Noah Lang l'année passée, j'ai trouvé que la réaction était beaucoup trop faible. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop faible. Je te laisse Didier. Et je trouve que si on ne donne pas l'exemple sur ce genre de choses, un exemple qui fait que c'est intraitable, c'est indiscutable, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être et je pense que ça a été un peu trop relativisé, on ne donne pas le bon exemple. Et la deuxième chose en Angleterre aussi, c'est les prix, le prix des places. Alors le prix des places, ça crée une fameuse une fameuse sélection à l'entrée. Un abonnement en Belgique, la moyenne d'un abonnement en Belgique pour toute la saison est moins de 200 euros. pour toute la saison. On n'est pas ce qui peut être le prix d'une place.
Une place, oui, c'est ça.
Pour un match en Angleterre.
Donc pas bien placé.
Je crois que ça change.
Ouais, c'est certainement. Tout même un peu, j'imagine bien qu'un type qui bosse dans une banque qui a un certain poste. Va peut-être pas vouloir se taper avec des supporters adverses le week-end et qui va plutôt non pour... Mais,
alors, à ça, je pose la question. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas abonné avant ? Première question. La seconde, c'est que je pense... Et c'est aussi un moyen d'augmenter le prix des places. Hein, je ne discute pas.
Oui, c'est un moyen. Mais c'est effectivement, pas moralement, mais c'est vrai que c'est un petit peu désolant parce que ça prive des gens du plaisir d'aller au stade, mais...
En fait, moi, mon souci, c'est que je ne vous vois pas, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais le fait est que, par exemple, je me souviens à l'épisode du transfert de Neymar au PSG, il n'avait même pas encore été présenté, qu'il y avait 100 000 maillots qui avaient été vendus à 100 € pièce. Donc, je veux dire, les gens, même les plus... moi, ça me fait toujours sourire, ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement nantis, qui font les voyages en déplacement, qui achètent tant et plus d'objets marketing et merchandising, qui dépensent une fortune pour leur club. Donc, j'ai l'impression qu'en montant les prix, eh bien, bon, ils suivent le mouvement. C'est un petit peu comme les fumeurs.
Les cigarettes, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Exactement. Et alors, je voulais juste revenir sur ce que disait Steve tout à l'heure. Alors, clairement, c'est juste insupportable les propos racistes, mais je vais revenir un instant au mouvement de foule, parce que c'est ça qui a chronique ce week-end. Le dernier mouvement de foule en date en Belgique, à ma connaissance, et qui n'a pas dégénéré, mais qui aurait pu dégénérer, et on était limite, c'était à Sclessin face à l'Antwerp fin de saison passée. Et les pouvoirs publics, les policiers n'ont pas bougé pendant 20 minutes parce qu'ils étaient timorés et qu'ils avaient peur, carrément. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Steve, il y avait, je pense, les supporters de l'Antwerp qui sont venus pour provoquer. Ils avaient envahi le terrain, ils étaient venus en face dans la tribune. Derrière les buts pour provoquer leurs adversaires, ça a failli tourner. On aurait pu avoir un véritable drame. Et les policiers ne sont intervenus qu'après 20 minutes. Donc c'est là que se pose la vraie question. Alors tant qu'on échappe au pire, on se dit il n'y a pas mort d'homme, ok, très bien. Mais je pense qu'il faut très souvent réfléchir plutôt en amont que c'est pas quand il y a des morts et des blessés qu'il faut acheter les ambulances, il faut les prévoir à l'avance, d'après moi.
Tout à fait. Tu conclus bien cela. Moi, c'est moi qui vais conclure parce que j'avais une dernière chose à dire sur l'évolution des choses. Moi, je me souviens peut-être en 88-89. Il y avait le gardien de but de l'OM qui s'appelait Joseph Antoine Bell, qui était le gardien du Cameroun. Et je me souviens que je crois que c'était un match à Toulon ou je ne sais plus où il lui avait jeté des bananes pendant tout le match en gueulant des bananes pour Joseph, des bananes pour Joseph. Je crois que c'était à Bordeaux, pardon, et que c'est Bordeaux. Il jouait à Bordeaux et que c'était les supporters de Marseille, son ancien club, qui lui avaient envoyé des bananes pendant tout le match, des bananes pour Joseph. C'était en 88-89. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est toujours d'actualité. Bon, on a parlé de ce qui faisait pas plaisir. Je vous propose qu'on y aille, quoi. Hein. Ça y est. C'est le coup d'envoi de cette. De effectif, on va dire. On joue la prolongation et on va commencer par le champion en titre, le club de Bruges, qui l'a emporté 3-0. C'était Amaline, 3-0. Débute l'inévitable ou quasiment Jugla, Sobol et Buchanan qui revient à point nommé après des blessures. À tout seigneur, tout honneur, Didier. Qu'as-tu donc pensé de ce match?
j'ai vu. Alors c'est le premier match de Bruges après la déconfiture à Sclessin, et voilà. Et on y reviendra peut-être après. Je voulais voir un petit peu comment ils avaient digéré parce que prendre 3-0 à Sclessin, même si ce n'est plus le standard d'antan, on est bien d'accord. Et je pense que Steve est d'accord sur le constat. Mais c'est toujours un adversaire. C'est jamais un match comme les autres. Pour avoir vu le match, on en avait parlé toi et moi, Sam, la semaine passée. C'est un concours de circonstances. Je dis pas que Bruges n'a pas bien joué, ils n'étaient pas là, on est bien d'accord.
Didier, t'es extraordinaire. Ton équipe a gagné 3-0 et tu me parles du match où ils ont perdu. en perspective tout ça.
Parce que c'est plus rare.
C'est plus rare.
Un peu comment ils avaient digéré ça.
Ouais.
Et moi, j'ai vu un très bon Bruges. Personnellement, je trouve que la mayonnaise a l'air de prendre et Karl Lufkens, sur lequel j'émettais personnellement quelques réserves, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas sa griffe et sa patte, eh bien, il est en train de la mettre en place. Il fait tourner son effectif de manière, il le garde impliqué comme rarement des entraîneurs avec un tel noyau réussissent à le faire, parce qu'il a l'air, tous les joueurs ont l'air heureux d'être là. Je veux pas, pour prendre exemple, Van Aken qui est resté au Mercato, je pense à Simon Mignolet qui vient de re-signer jusqu'en 2026, donc c'est que les joueurs sont heureux d'être là, et même Noah Lang.
Oui, j'allais le dire. Il est sorti du banc de manière incroyable.
Hein. Je pense qu'il doit sentir le souffle chaud de la concurrence sur sa nuque quand même, parce que parce qu'à un moment il avait des, on l'a toujours dit, il a un petit peu,
il a ce il côté, fantasque.
Il est fantasque. Non, je pense, j'allais plutôt insister sur son côté un peu arrogant,
irlandais. Hein.
Voilà. Ça, c'est pas
raciste. Mais par contre, ce que je voulais quand même signaler aussi, et ce qui n'est pas, de mon point de vue, anodin, il s'est blessé, il revient, il reste à Bruges alors qu'il aurait souhaité un transfert, c'est et ça. Quand il monte, il mouille le maillot parce que dans moins de 60 jours, il y a la Coupe du Monde et qu'il espère, et bien sûr, être repris dans la sélection néerlandaise. Donc, il ne peut pas faire l'économie d'un match et s'il veut avoir une chance de partir au Qatar. Donc, j'ai l'impression que pour le moment, dès qu'on lui donnera des minutes de jeu, il va essayer de faire le mieux qu'il peut et il ne va pas calculer ses efforts, ça c'est mon avis. Et c'est mon avis d'autant plus que ce que j'ai vu dès qu'il est monté sur le terrain, c'est qu'il a enflammé le match qui était déjà quasiment fini pour le coup, il était déjà 2-0, mais il y est allé de petits mouvements, c'est lui qui fait l'assist, qui donne l'assist pour Buchanan. Et donc pour revenir à Bruges, je vois que sorti du banc, ben tu as Lang et Buchanan qui est monté en deuxième mi-temps. Eh bien, un centre de Lang pour Buchanan et c'est goal. Je vois aussi, je n'oublie pas que Ritz n'est pas là.
C'est là-dessus que j'aimerais qu'on insiste. J'ai la composition de l'équipe sous les yeux. Si vous prenez une feuille de match de l'équipe de Bruges de l'an passé, vous les comparez et il y a eu énormément de changements. Et pourtant, ça n'affecte pas le rendement, ou quasi pas. Et c'est pour ça assez remarquable. Et c'est en ça que je disais que Noah Lang, il se bouge aussi, parce que il s'attendait peut-être pas à ce que, après le départ de Charles de Ketelaere, il soit mis en concurrence autant. Bon, il a été blessé, donc la concurrence était un peu faussée. Mais quand on voit Ferran Jugla, Sowa, Nusa en ligne d'attaque.
Pour moi, c'est plutôt une résurrection, parce que il est arrivé l'an passé, on pensait que ça allait être un miraculeux, et puis il a déçu de par la place qu'on lui demandait d'occuper, et puis avec Philippe Clément, je pense que le courant ne passait pas trop. Là, maintenant, il est sur une courbe, il marche sur l'eau d'une certaine façon. Quand tu vois derrière des gamins, parce que on parle beaucoup du process à Anderlecht, on parle beaucoup des jeunes au Standard, et pour cause, hein, ils sont aussi brillants, mais quand tu vois qu'il y a trois joueurs de 17 ans sur la pelouse brugeoise, que sont, ou quasiment 17 ans, Silla, Nusa, et j'en oublie un au passage, et puis les nouvelles recrues, Onyedika,
qui
lui, 21 ans. Il est en train de s'adapter à une vitesse VV prime, ce que Yaremchuk ne fait pas encore bien. Quand lui, il arrivera à bien s'intégrer dans le système, eh ben, ça va faire mal, je pense. Mais quand tu vois le banc de Bruges et l'effectif à la disposition de Karl Lufkens, on est en droit. Alors, bien sûr qu'on ne va pas gagner la Coupe d'Europe des clubs, enfin la Champions League, mais je pense que demain sera un très 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 beau test et j'espère, et je le dis chaque fois la même chose quand ils jouent en Champions League, peu importe qui gagne et qui perde, je préfère qu'ils gagnent évidemment, pour autant que je trouve qu'ils aient vraiment mouillé le maillot et qu'ils ont montré ce qu'ils étaient capables de faire. Après l'Atlético Madrid,
on va passer sur la Belgique et les résultats domestiques et ne déflore pas
une dernière chose sur ce match là c'est que déverrouiller ou faire sauter le verrou malinois, c'est pas toujours évident, et ils ont mis une bonne demi-heure pour le faire. Le seul bémol que moi, enfin c'est pas un bémol, football, mais c'est ce qui me fait toujours un petit peu stresser, c'est que j'ai l'impression qu'ils veulent aller avec la balle dans le goal, ce qui le réussit quand même quelques fois, mais je me dis qu'avec des artificiers comme ils ont dans l'équipe, ils pourraient parfois tenter leur chance de plus loin et peut-être inscrire l'un ou l'autre but, parce que ils s'en mêlent les pinceaux avec des petites passes dans les petits espaces au tiki-taka de la grande époque barcelonaise, et c'est beau à voir, hein, c'est clair, mais parfois je trouve qu'il y a parfois moyen de jouer un petit peu plus simple et d'être plus efficace.
Steve, je suis assez d'accord avec Didier et qui a commencé par son analyse en parlant du match contre le Standard. C'est une vraie question. Est-ce que c'était Bruges qui commençait une mauvaise série et ça n'allait plus, parce que ça n'allait pas du tout, oui, ce match. Alors, je pense qu'après la trêve et à la lumière de ce nouveau match, je pense qu'on peut vraiment dire qu'il y a eu un concours de circonstances. Un jour vraiment sans. Et deux, un Standard qui était... qui était tombé dans la marmite de la potion magique. Ils étaient clairement, ils jouaient avec des ailes et ils ont réussi à concrétiser tout ce qu'ils ont. Bon, je dévie vite vers le Standard, mais ils ont réussi à concrétiser. C'était pas tant la faiblesse de Bruges, c'était vraiment un jour sans. Parce que hier, c'était impressionnant. Et là où je rejoins encore Didier sur l'idée de le ballon qui rentre dans le goal, si on voit le résumé du match d'hier, Bruges pouvait en marquer 6, 7, 8. Hein,
absolument.
C'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, j'ai pensé à ça quand tu disais, regardez les remplaçants Lang et Buchanan qui marquent. Mais il faut savoir qu'ils en marquent un exact, quasiment le même, 10 minutes avant, qui est annulé pour hors-jeu. Hein. Donc c'était vraiment un bis repetita, cette fois, qui était valable. Donc, je trouvais que la démonstration de puissance de Bruges était vraiment assez importante. J'ai trouvé que, entre parenthèses, le gardien de Malines, il a fait le match de sa vie. Hein.
Oui, c'est
ça. Il était vraiment... Il sautait dans tous les sens, à droite, à gauche. Il en a arrêté je ne sais pas combien. Et je pense que la profondeur du banc de Bruges, quand on sait qu'il y avait deux joueurs qui jouaient pour la première fois, me contredire, mais leur première minute en Pro League en étant titulaire de 17 ans, ce qui montre... évidemment la profondeur des jeunes et du banc de Bruges, ce qu'il doit faire maintenant, c'est il doit tout miser sur la Ligue des Champions. Il faut vraiment, je crois qu'il faut pas, je sais qu'on va y revenir, mais ils doivent pas calculer, ils doivent assurer le maximum en championnat et peut-être perdre encore une fois comme ils l'ont fait contre le Standard. De toute façon, ça va pas leur porter préjudice au classement, sachant que
on va
diviser les points et que ils sont de toute façon dans le peloton de tête. Mais là, ils ont une chance, et on l'avait dit en début d'année quand j'étais dans cette émission, ce qui manque à Bruges maintenant après 3 titres d'affilée, c'est clairement asseoir une position d'outsider important dans la plus grande compétition européenne. Là, ils font un 6-6, ils ont toutes les cartes en main, je pense qu'ils doivent assurer ce qui est possible en championnat, jouer sur leur profondeur et puis tabler sur le niveau européen. Je ne vais pas y revenir, mais donc Bruges, extrêmement impressionnant, et comme l'a dit Didier, face à une équipe malinoise qui n'est pas un oiseau pour le chat.
Hein. Non, clairement.
Et du coup, cette victoire de Bruges a un effet au classement, bien évidemment, puisque le leader, l'Antwerp, qui restait sur 9 victoires consécutives, n'a pas rien pu faire face à la tornade, à la puissance de Didier Lamkelsé.
Je ne sais pas si on peut dire un petit mot sur l'Antwerp.
Parce que bien sûr.
Là, je vais peut-être un peu me mouiller.
Et alors, vas-y.
On aime toujours bien, évidemment, montrer après un avant-après pour montrer que la personne a eu tort, évidemment. Eh bien, tant pis, j'assume. Clairement, pour moi, Antwerp, c'est un pétard mouillé.
Ils vont s'effondrer.
Ah oui, mais depuis le début, je le pense. Honnêtement, j'ai regardé pas mal de leurs matchs. Ils ont fait...
Mais Didier... n'est pas d'accord.
Mais oui, mais tant mieux. Mais pour une fois que je suis sur le plateau et lui pas, ça me permet d'avoir de pas me faire interrompre directement, donc j'en profite pleinement. Je trouve que l'Antwerp, clairement, je ne nie pas la qualité de leur équipe, je ne nie pas la qualité de leur jeu, mais je pense qu'ils ont bénéficié de beaucoup, beaucoup, beaucoup de circonstances favorables, même si leur calendrier n'était pas simple, je suis d'accord, hein, mais beaucoup de circonstances favorables pour faire un peu par hasard avoir le maximum de points. Et je crois vraiment, et peut-être aurais-je tort, et on pourra me le remettre sous le nez dans quelques semaines, n'hésitez pas, hein, si c'est le cas, mais je pense vraiment, je ne dis pas qu'ils ne seront pas dans le top 4, mais je ne pense même pas que ce soit totalement assuré, mais il y a quand même plus de chance, mais clairement, en tout cas, leur première place va, à mon avis, s'effondrer et ils vont rentrer dans le rang dans des matchs où ils vont perdre pas mal de plumes, à mon sens. Et le fait, je sais, ils ne jouent pas la Coupe d'Europe, c'est entre guillemets leur chance, mais je pense que ça ne va pas suffire, surtout dans une année où tout le monde va avoir une pause d'un mois et demi.
C'est vrai. C'est vrai. Ben, oui, Didier.
Moi, je t'avoue, alors, je ne suis pas fan de l'Antwerp, vous le savez. Enfin, je n'étais pas fan de l'Antwerp. Par contre, depuis l'arrivée des Hollandais, Overmars, et puis plus récemment, l'entraîneur dont le nom m'échappe.
Marc Van Bommel.
Van Bommel, ils ont fait des achats quand même, avec surtout le milieu de terrain qu'ils ont piqué à Bruges en dernière minute, qui a réfléchi pendant la nuit, qui est quand même Ekelenkamp. Moi, je les ai vus jouer quelques fois. Je n'ai pas vu le match de ce week-end, pour être honnête. Mais de ce que j'ai pu voir, je trouve que c'est une équipe qui est en mutation par rapport aux 2-3 ans derniers, où c'était vraiment, pour moi, un foot de bûcheron et de certaines façons de boucher, dans le sens pas sale du terme. Mais c'était vraiment pas spécialement joli à voir. Je pense que cette année, c'était un football un peu plus léché. Moi, je ne suis pas de ton avis en disant que c'était un pétard mouillé. Je m'attendais à un moment ou à un autre, parce qu'il n'y a aucune équipe qui va gagner, qui va faire 90 points sur 30 matchs. Ça n'existe pas. Donc, il faut de toute façon en perdre un moment ou un autre. Et je pense qu'en fonction des périodes, eh ben, certaines équipes sont dans le doute, les blessures, ceci, cela. Mais moi, par contre, je pense que c'est un sérieux candidat au titre, de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent avec Genk. C'est Genk, Bruges et Lanteur, pour moi, c'est les équipes qui me séduisent le plus. Et alors, tu as les outsiders, que sont l'Union, avec peut-être moins de talent, mais un groupe juste incroyable, avec un football super, toujours aussi rafraîchissant. Anderlecht, moi, me déçoit énormément. On pourra peut-être y revenir.
Allons-y, parlons d'Anderlecht.
Pour te dire, le match de l'Antwerp contre Courtrai, d'abord, c'est quand même une énorme surprise comme score. Parce que clairement, Courtrai a un très mauvais début de saison, donc on ne s'y attendait pas. Eh bien, peut-être au contraire de ce que j'ai, en apparence, au contraire de ce que j'ai dit, l'Antwerp ne mérite pas de perdre du tout. Ils n'ont pas du tout fait un mauvais match. Ils n'ont pas concrétisé. Mais pour moi, c'est justement, ça me met en tête qu'il est normal qu'ils perdent ce type de points, et je trouve qu'ils ont bénéficié d'énormément de réussite, hein. Depuis le début, sans nier, et ça je suis d'accord avec Didier, sans nier leur qualité, hein. Il y a vraiment de la qualité dans cette équipe. Mais je trouve qu'ils ont bénéficié d'un concours de circonstances incroyable pour avoir réussi à gagner tous leurs matchs avec des fois un nombre de tirs cadrés qui était égal au nombre de buts qu'ils marquaient. Hein. Ce qui n'était pas le cas la semaine contre Courtrai, où là, c'est une défaite qui n'était peut-être pas méritée, mais on rentre un peu plus dans la statistique normale du football.
Tout à fait. Je partage tout à fait ton avis.
Écoute, on avait dit Anderlecht, mais en fait pas du tout. On va donner la parole, la priorité au club de ceux qui sont présents, et on va parler du match qui était le match d'ouverture.
Je sais pas si c'est une bonne chose, une prime au présent. Hein.
C'est le match d'ouverture de cette 10e journée, le Standard face à Seraing, un derby qui n'a pas tourné en faveur des Rouges, battu 0-2. Steve, comment est-ce que tu analyses cette... Est-ce qu'on parle d'une rechute? Enfin, c'est une défaite, de toute façon, comme on vient de le dire. La défaite fait partie du football, et personne ne gagne tous ses matchs. Donc même une série comme celle qu'avait entamée le Standard pouvait s'arrêter. Donc ils ont perdu.
Mais comme quoi en football, hein, l'expérience... Je vais parler pour moi.
Oui.
l'expérience n'entraîne pas toujours la raison et la sagesse. Parce que mon expérience de supporter du Standard depuis 30 ans devrait faire de moi quelqu'un qui sait parfaitement que ce n'est pas parce qu'on gagne 4 matchs d'affilée que forcément, ça y est, on va viser le titre. Et il n'y a rien à faire. Vendredi après-midi, en partant du travail, j'étais tout excité à l'idée de me faire ce petit match où je voyais le Standard complètement arriver, gagner 6-0 contre Seraing. Mais rien à faire, comme quoi... C'est ça,
tu t'étais déjà projeté en te disant, bah, au nombre de points, bah, si on gagne ce soir...
Tout
bah,
à fait, j'avais regardé ma petite application et j'avais fait les calculs, les calculs fictifs que je ne pensais pas fictifs. Comme quoi, je suis vraiment... je ne suis pas du tout sage.
Ouais.
Et ben, il faut reconnaître que le Standard a fait du Standard, c'est-à-dire... Un grand classique, on va chercher une victoire de prestige contre Bruges avec la manière, avec un public en folie furieuse. On croit que ça y est, et puis on joue contre l'avant-dernier. Et on retombe les pieds sur terre. Alors, cette victoire pour moi, cette défaite, illustre parfaitement l'état d'esprit du Standard. Il faut savoir qu'ils encaissent plus ou moins après 10-12 minutes, si mes souvenirs sont bons. Eh bien, les 10-12 premières minutes, et les commentaires du commentateur d'Eleven étaient assez marquants, ils disaient... La question, ça va être quand le Standard va marquer, ils disaient. Parce que le Standard était contrôlé le match, faisait des petites accélérations. Il y avait déjà plusieurs tentatives. On sentait clairement que le Standard mettait le pied sur le match. Patatras. Première incursion et faiblesse de la défaite du Standard. Premier goal encaissé. Et là, après 12 minutes, le match a complètement basculé. Les 10 premières minutes du Standard, on ne les a plus revues une seule fois du match. Ils ont été complètement abattus moralement. Ils ont joué latéralement, fait énormément de pertes de balles. Ils gardaient, c'est eux qui avaient la possession, mais une possession parfaitement stérile. Et finalement, les meilleures occasions, elles venaient de Serein, qui en contre était avec... Bernier qui était absolument formidable. Et le Standard, finalement, a une possession totalement stérile. Et il n'y a pas une seule seconde, pendant la deuxième mi-temps, où ils ont donné le sentiment de revenir. Pas une seule seconde. Ils étaient une domination...
Les premières minutes, oui, de la deuxième mi-temps, oui.
Oui, peut-être.
Juste avant le 0-2.
Mais domination stérile. Oui. Et puis après, à 0-2, le match était terminé. Extrêmement dommage. J'ai trouvé...
Moi, je t'interromps, Steve. Oui. C'est ça que je trouve dommage. Et ce n'est pas qu'au Standard que je dis ça. Je trouve qu'en Belgique, que ce soit en Espagne, en Italie, en Allemagne, même en France dans une moindre mesure, mais en Angleterre, 0-2, eh bien, le match n'est pas plié. Jamais un match n'est plié à 0-2. En Belgique, j'ai l'impression qu'une équipe qui mène 2-0 ou 0-2, eh bien, on dit, ben voilà, l'autre, elle essaie de ne pas prendre une casquette et basta. Il n'y a pas cette niaque que tu as dans les autres championnats. Et je prends des équipes, je ne parle pas des tout grandes équipes, hein, il n'y a pas cet esprit de vouloir jouer jusqu'à la 96e minute. Et regarde, en Italie, on va y revenir peut-être, l'AC Milan à Empoli. En Belgique, c'est terriblement rare de voir des gens mener 0-2 qui vont, sauf quand c'est à la maison, évidemment, et encore, ça dépend des équipes, ça dépend du public surtout, mais il manque cette niaque et cette envie. On a l'impression qu'ils sont déjà résignés après 0-2, même si c'est après 20 minutes de jeu.
Oui, j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Alors, je n'ai pas de réponse à ta question. Est-ce que on retombe et ces quatre victoires n'étaient qu'un feu de paille, ou est-ce que c'est un faux pas? Je n'ai pas de réponse à ce stade, vraiment. Par contre, ce que je trouve, c'est que clairement, on sait, et moi aussi, très vite enflammé sur les nouvelles recrues. Il y a clairement un ou deux, dont l'attaquant, qui ont l'air d'être plus ou moins à niveau.
Ouais.
Mais il y en a d'autres. Cet Italien au bac droit, là, ou bac gauche, j'ai oublié son nom, qui est totalement responsable sur le premier goal, et qui a fait un match un peu catastrophique. Honnêtement, les nouvelles recrues sont vraiment à revoir, et très difficile de savoir s'ils vont apporter quelque chose. Maintenant, je suis un peu rassuré de voir que le Standard a montré tout de même qu'ils avaient les qualités pour être dans la première moitié de tableau, je dis. Ouais. Certainement pas dans le top 4. Mais ils ont montré lors de cette bonne période qu'il y avait de quoi espérer pouvoir engranger un certain nombre de points pour faire une année qui soit une année de transition positive.
Je dis juste une phrase et je te passe la parole, Didier. Eh ben, j'ai oublié.
Mais merci Sam. Donc, je voulais faire une réflexion, si mais c'est plutôt une question que je voudrais poser à Steve, puisque lui, il est bien plus connaisseur du Standard que moi. Est-ce que tu fais le même constat que moi? Je trouve, pour avoir vu ce que j'ai vu du Standard, que ça manque d'une part de fond de jeu globalement. Il n'y a pas une patte Standard, si ce n'est le public quand on joue à Sclessin. Pour le reste, en déplacement, je ne vois rien. Et ensuite, la seconde chose, c'est, alors tu parlais de l'Antwerp. Alors effectivement, le Standard a eu une période avec 4 matchs, je pense, d'affilée gagnés, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Et j'ai pas trouvé que c'était nécessairement tous les matchs et toutes les victoires étaient méritées. Je trouvais que c'était parfois tiré un peu par les cheveux et c'était pas convaincant comme victoire. Peut-être une Louis contre Bruges, bien sûr, ça, on n'y revient pas. Mais je trouve qu'on s'enflamme vite, comme tu dis. C'est la cité ardente, hein, c'est pas pour rien. Mais en même temps, tu te dis, ok, ils ont 4 matchs.
Ouais, mais moi, j'ai retrouvé justement ce que je voulais dire, c'était que cette série de 4 matchs, même s'il y a eu des circonstances, comme dans chaque match, j'allais dire, elle doit servir, je pense, au Standard pour se rassurer, en tout cas se dire qu'ils sont capables de pouvoir enchaîner, de pouvoir réaliser des bons résultats. Évidemment, ils ne vont pas faire tout le temps des grandes séries, mais au moins s'appuyer sur quelque chose de déjà accompli et en se disant voilà, ça c'est quelque chose qu'on est capable de faire.
Je suis d'accord avec Didier que les victoires n'étaient pas totalement convaincantes contre Stand, mais je trouvais que justement ce qu'il y avait de bien dans cette série, c'est que ça montrait que le Standard finalement arrivait, même en n'étant pas exceptionnel, à avoir le moral qui leur permette de gagner des points dans des matchs, dans des matchs, ce qui n'était pas le cas avant.
Et puis la pièce tombe peut-être du bon côté cette fois-ci et elle tombait moins bien de l'autre.
Et pour répondre à Didier sur l'esprit Standard, l'esprit en tout cas du jeu, hein, hors public, j'ai trouvé aussi qu'il y avait une... Il n'y en a pas encore, je suis d'accord. Hein. Ça fait longtemps. Hein. Aussi, Standard est devenu tellement un club de transit que c'est compliqué de se dire, tiens, il y a un fond là-dedans.
Ouais.
Mais il s'est dessiné quelque chose qui était assez agréable à regarder dans le trio Amala, Raskin, Balikwisha. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un milieu de terrain qui donnait un petit début de fond de jeu qui donnait envie. C'est pour moi des prémices, mais qui doivent être confirmées.
Il est déjà 20h40, alors on pourrait parler des heures et des heures de la Jupiler Pro League. On va parler tout de même des autres résultats. Rapidement, l'Union est allée gagner à OHL 0-3. Là aussi, c'est une sacrée surprise. Si, c'est une surprise parce que OHL était vraiment l'invité surprise.
La manière. Quand on parlait de fond de jeu, est-ce que vous avez vu le jeu en transition de l'Union?
Ouais,
c'est impressionnant, ça vient de toutes les lignes, quand ils sont au top et quand ils jouent bien, c'est vraiment, comme tu as dit, hein, peut-être moins de qualité, mais ça joue en équipe. Honnêtement, j'ai regardé ce match, je les ai trouvés très impressionnants dans le fond de jeu.
Ouais. Et en même temps, tu vois, pour revenir à ce qu'on disait, moi je ne parlerai même pas d'une surprise, je parlerai plutôt d'une super performance, parce qu'aller gagner à Louvain, c'est pas donné à tout le monde, et je pense même aux gros cylindrés de notre championnat, c'est une équipe qui joue avec comme des morts de faim chaque match, et en plus avec actuellement je trouve un beau fond de jeu et un beau jeu. Mais par contre, effectivement, à l'Union, eh bien, même remarque pour Bruges et Oufkens, je trouve que Gerhard, ça réussit, il fait pas du Matsu 2.0, on voit maintenant une Union version Gerhard, parce qu'il faut pas oublier que aussi ils ont perdu des cadres hein, pendant cette intersaison.
Ils se sont fait prendre un cadre important par un club bleu et noir.
Je veux dire, tu as Oudaf qui est parti meilleur buteur, tu as Nielsen qui est parti,
Thomas qui a porté quand même un peu. Beaucoup.
Absolument. Enfin, et puis tu avais derrière aussi ce défenseur qui est parti, j'ai oublié son nom. Heureusement que Burgess est resté. Beger est parti.
Ouais.
Je veux dire, ils ont quand même perdu des pièces maîtresses dans chaque secteur de jeu.
Et puis c'est la saison d'après, donc c'est toujours le risque de...
Exactement. Et je trouve, alors je sais bien sûr qu'ils ont peut-être pas, et on va arrêter de faire des pronostics parce qu'on s'est vraiment planté la saison passée, mais ils ont peut-être pas le noyau pour aller au bout comme l'année dernière, mais franchement, moi je les trouve toujours aussi plaisants à regarder.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est toujours agréable à voir. Par contre, ils ont un avantage par rapport à une autre équipe qui est très agréable à regarder jouer et qui pourtant risque de basculer, c'est Zult, parce qu'au début ils produisent du beau football, mais apparemment ils n'arrivent pas à prendre de points. Mais quand tu vois Zult jouer, c'est pas moche à voir. Je veux dire, il y a des équipes que je trouve plus chiantes à regarder, pour prendre le mot, et qui ont beaucoup plus de points que Zult.
Ok, bah écoutez, on va s'arrêter sur la Jupiler Pro League. On rappellera juste donc que l'Antwerp ne possède plus que 2 points d'avance sur Genk, qui a fait une bonne opération, tout comme Bruges et l'Union, qui sont donc Genk 2, Bruges 3, l'Union 4. Le Standard est à la 6e place malgré sa défaite, et Anderlecht est 10e et compte déjà 14 points de retard sur le leader, et 6 de retard, on va dire, oui, j'allais dire qu'on allait passer à autre chose, mais on ne peut pas ne pas évoquer le fait que Anderlecht donc a glissé méchamment depuis le début de saison et compte déjà 5 défaites en 10 matchs. La question qu'on redoute mais qu'on doit poser, est-ce que selon vous menacé il l'est sans doute, mais comme tout entraîneur, est-ce que ce serait une bonne chose pour Anderlecht que Matsu parte? Alors je connais d'ores et déjà votre réponse, on sait qu'on est à peu près tous ici sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que on croit assez peu dans l'effet miracle du changement d'entraîneur en cours de saison. Moi je pense que j'espère qu'il va pas lui arriver la même chose que ce qui lui est déjà arrivé Matsu à Genk. Une journée de championnat qui aura été intéressante, et même plus que ça. Et je vous propose qu'on passe
à la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe qui débute donc demain. Et bien sûr, on va parler, je te l'avais promis Didier, qu'on allait parler beaucoup de ton club. On va parler du club belge. Du club belge engagé en Ligue des Champions. Donc le club de Bruges. C'est face à l'Atlético Madrid cette semaine. C'est demain. Certains de nos auditeurs ne pourront pas ou ne voudront pas regarder le match. Pour d'autres, c'est moins problématique. Et donc le match de Ligue des Champions face à l'Atlético, on a affaire à une équipe de Bruges, on l'a dit, qui est étonnante, en tout cas étonnante dans le sens où si on nous avait dit il y a un mois et demi qu'elle serait en tête avec 6 points sur 6, on n'aurait pas signé des deux mains, disons. On a dit dans cette émission que, enfin moi j'avais dit que je trouvais que le groupe était plus abordable parce qu'il y a moins d'épouvantail, même si l'Atlético est très fort, il y a quand même moins d'épouvantail que quand vous avez le Real et le PSG. Yeah. Mais voilà, c'est demain qu'on va avoir le gros test, non Didier?
Alors, je ne sais pas si c'est demain qu'on aura le gros test, en tout cas ce sera un test demain. Moi ce qui me plaît, ce que je trouve génial pour une équipe comme Bruges, pour toute équipe belge qui joue en Champions League et qui aurait réussi ce que Bruges a parvenu à faire, ils ont quand même joué Leverkusen à la maison et Porto à l'extérieur. Et deux clean sheets, quoi. Ouais. Et à l'échelle européenne et continentale, je trouve que rien que ça, c'est même plus à saluer peut-être que le côté du nombre de buts marqués, même si, je veux dire, ils ont eu... C'est pas de la réussite, c'est pas de la chance, mais je veux dire, tout ce qu'ils ont entrepris à Porto s'est avéré payant et tout le mérite leur en revient, clairement.
Ouais, le match face à Porto était exceptionnel. Extraordinaire. Absolument. Dans le sens propre du terme, ça n'arrive pas tout le temps de concrétiser autant d'occasions.
Ça fait la différence entre une très bonne équipe et une grande équipe. Je pense que quand tu penses à City, Liverpool, enfin tous les grands noms, c'est des gens qui arrivent à reproduire les mêmes performances de semaine en semaine et Bruges par moment à Porto ou dans d'autres matchs. Et même contre Malines, j'ai vu par moments des moments, entre guillemets, je vais utiliser un superlatif, mais des moments de grâce de foot, c'est beau à voir, c'est fluide. Le problème, c'est que la réalité, c'est que le jour où ils pourront enchaîner les matchs avec une telle justesse de passe, avec une telle précision, avec une telle réussite à tous les niveaux, bien à ce moment-là, ça deviendra une très grande équipe. Mais pour le moment, ça reste une très bonne équipe, surprenante, et je crois que ça fait partie de sa réussite. C'est que personne n'attendait Bruges et certainement pas ses concurrents à un niveau comme celui-là. Et donc, je pense que maintenant, l'Atlético est connaissant, je ne le connais pas personnellement, mais sachant toute la rigueur des Léonais, j'ai l'impression, et Bruges, ce sera un vrai test parce que là, ils vont tomber vraiment sur des mecs qui jouent pour leur entraîneur comme des morts de faim, qui ont aussi besoin de points.
Oui, alors justement, ils ont besoin de points. Tu as raison d'insister sur le caractère charismatique de Simeone qui entraîne avec lui ses joueurs. Néanmoins, et pour que le club de Bruges se rassure, lors du dernier match européen de l'Atlético, ils ont perdu 2-0 à Leverkusen. Leverkusen qui a été battu par Bruges. Donc c'est vrai que deux matchs ne se ressemblent pas particulièrement. Contre Leverkusen, ils ont encaissé les buts aux 84 et 87e minutes. Donc c'est quand même des buts, mais je veux dire par là que ça, le 2-0 reflète peut-être pas tout à fait le match. Donc ils sont friables, ils sont prenables, mais ils ont besoin de points. Et c'est vrai que c'est peut-être à ce moment-là qu'ils sont une bête blessée, en fait, qui est la plus dangereuse. Et l'Atlético Madrid qui serait le point de se faire distancer ou éliminer peut être effectivement très très dangereuse. Et il y a cette rigueur, cette constance. Moi je pense que Bruges peut faire quelque chose, mais il va pas falloir qu'il se loupe du tout. C'est-à-dire que l'année passée, j'aurais eu peur que Nsoki, par exemple, vous voyez ce que je veux dire, un joueur qui va avoir un passage à vide à un moment dans un match qui coûte à son équipe la victoire ou le nul.
En Champions League, tu peux pas te louper ce paysage. J'espère juste une chose en tant que supporter, c'est qu'ils vont pas se renier, qu'ils vont jouer comme l'Union l'a fait l'an passé, comme continue de le faire en Europe cette année, jouer avec leur philosophie, leur plan de jeu, sans être non plus un oiseau pour le chat et sans être bien sûr trop naïf.
Ils sont pas naïfs, voilà.
Je pense que l'avantage, c'est que ça se joue à la maison, donc le public va probablement jouer son rôle, en tout cas je l'espère. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un beau, enfin, de voir, je sais pas si je regarderai demain, mais c'est que ce soit un beau match de foot et que quand ils rentrent au vestiaire après 90 minutes, ils n'aient aucun regret. C'est tout ce que je leur souhaite. Et après, s'il peut y avoir des points au bout 1 ou 3, ben, tant mieux. Et s'il y en a pas, mais qu'ils ont bien joué, ben, je serai toujours content et ils auront toujours 6 points, quoi qu'il arrive.
C'est vrai, ils auront 6 points, quoi qu'il arrive.
Didier, le match est à 21h, hein?
Ouais.
Quelques grosses affiches, et notamment Barça-Inter, Inter-Barça plutôt, parmi les gros matchs. Mais revenons plutôt, j'ai envie qu'on parle, ça nous donnera l'occasion, c'est pas un grand match sur le papier puisque l'adversaire c'est Copenhague, mais c'est de Manchester City bien sûr, dont j'aimerais parler. Après la démonstration, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, et encore je pense que le score final ne reflète pas vraiment, même pas du tout, l'écart entre les deux équipes hier. La première mi-temps a été magistrale de la part de City. Ils sont touchés par la grâce, eux aussi.
C'est de l'art. Parce qu'à un tel niveau... Est-ce que tout le monde a vu ce premier but d'Haaland sur le service de Kevin De Bruyne? Ce goal, c'est pour moi ce qui se fait de plus beau dans le football, parce que l'angle n'est pas du tout facile. De Bruyne, on sait que c'est un centreur hors pair, mais là, il allie l'angle mathématique avec la puissance, de sorte que
c'est une passe en profondeur, hein, mais avec.
Oui, et donc la chaussure atteint vraiment en plein mouvement. La passe est suffisamment forte pour passer les deux ou trois défenseurs, mais pas suffisamment forte que pour qu'elle, alors qu'elle va, elle est excentrée, mais qu'elle sorte. Et lui arrive à se détendre suffisamment pour que le point d'impact, alors que ça va relativement vite, puisse couper la trajectoire et aller dans le goal. Pour moi, on n'est plus dans quelque chose de normal. On est vraiment dans ce qui se fait de plus artistique dans le football.
C'est ça. C'est vrai que ce sont des gestes, ce sont des artistes. On galvaude un peu le mot en disant ouais, c'est vraiment un artiste. Mais il y a des joueurs qui en sont
vraiment. Si tu réfléchis à la manière dont Kevin De Bruyne sait faire une passe en connaissant son attaquant, on est dans de la perfection. On est dans la perfection parce qu'il passe tous les défenseurs, mais il arrive à atteindre son attaquant. Et c'est très rare qu'on arrive à voir une telle perfection.
Ça semble, hein. Tu vois, c'est
pardon,
ça
on t'a pas entendu, redis Didier, s'il te plaît.
Et c'est ça, moi, qui me souffle chaque fois. Alors, ça n'enlève rien au talent de Erling Haaland, évidemment, mais on a presque tendance à... Quand tu les vois, t'as l'impression que ça fait 20 ans qu'ils jouent ensemble, ces deux-là, et ça ne fait que 2 mois.
Ouais. Quand il y a des connexions comme ça qui...
Exceptionnelles.
Ils sont câblés pareil, on va dire.
Mais je pense que dès le deuxième match...
Et les statistiques... Bon, on parle de la grâce, de la beauté, du jeu et des coups de Kevin De Bruyne. On ne va pas passer sous silence le démontage de record en règle qui est en train de réaliser Haaland, qui a marqué... c'est fou. Je crois qu'il est à 14 buts en...
18 en 11 matchs, je pense, avec la Coupe d'Europe, si j'ai bien compris.
18 en 11 matchs. Il ne joue pas la Coupe du Monde, lui. Donc, il va pouvoir bien se reposer.
C'était 14 buts en 8 matchs, c'est possible
Oui, c'est ça. 14 buts en 8 matchs en championnat et 18 en 11, ou peut-être pas 11. Enfin, voilà, il est exceptionnel. Exceptionnel, surréaliste.
Attention, et ce qui est exceptionnel aussi à noter, c'est qu'il a fait pareil quand il était en Autriche, il a fait pareil à Dortmund. Je veux dire, où qu'il passe, c'est la même chose.
Il paraît qu'il fera pareil l'année prochaine au Paris Saint-Germain. J'aimerais bien.
Non, mais City, c'est vraiment la vraie question, parce qu'évidemment, on sait bien que c'est l'addition d'excellents joueurs fait que tu n'as aucune certitude de ce qui va t'arriver, de ce que tu vas remporter à la fin de l'année. Mais les voir jouer te met déjà dans un état d'excitation assez incroyable, et tu te dis qu'il va y avoir dans cette Ligue des Champions, surtout quand on pense avec le PSG, hein, quand on pense avec le Real, et City a l'air mieux armé que jamais maintenant.
Non, mais ce qui est impressionnant, je trouve aussi, bon, c'est effectivement le fait d'avoir ajouté ce qui apparaît comme la pièce qui manquait. Mais à côté de ça, ils ont renouvelé aussi des joueurs qui, Mahrez peut-être joue moins, comment il s'appelle, Gabriel Jesus est parti. Et c'est vrai que Gabriel Jesus, on le met à côté de Haaland, on se dit c'est pas le même niveau. Mais même déjà avec Gabriel Jesus, il faisait trembler l'Europe entière et ils étaient pas loin d'aller au bout. Donc c'est vrai qu'on se demande vraiment, Comment on peut les stopper. Dortmund menait quand même 0-1 lors du dernier match, et puis il a fallu Haaland, bien sûr, notamment pour donner la victoire, mais c'est vrai que c'est hyper impressionnant, et on se réjouit de plus en plus de les voir jouer. Donc Manchester City.
Ça n'empêche pas Kevin De Bruyne de râler hein, pendant le match. Je l'ai vu râler, mais quand il râle, c'est que c'est souvent bon signe.
Hein. Ah bah, sans blague.
Pour terminer cette émission, je vais partir d'un match. Et il y a donc parmi les matchs qui se jouent mercredi cette fois-ci, un match qui opposera au Stadio de la Luz, le Benfica Lisbonne, au Paris Saint-Germain. Et figurez-vous que je ne vais pas vous parler du Paris Saint-Germain. Vous connaissez Bella Gutmann? Non? Alors venez écouter l'histoire extraordinaire de l'une des figures les plus singulières de toute l'histoire du football. C'est vrai que lorsqu'on parle d'entraîneur charismatique qui a marqué son temps par ses succès ou ses innovations tactiques, on pense souvent à Johan Cruyff, à Rinus Michels, à Arrigo Sacchi ou Ferguson, Mourinho et bien sûr Guardiola. Et c'est vrai que le nom de Bella Gutmann ne vient pas aussi spontanément à l'esprit. Et pourtant, quel entraîneur peut se targuer d'avoir remporté la Coupe d'Europe à plusieurs reprises et la Copa Libertadores? D'avoir entraîné en Italie, au Portugal, au Brésil, en Argentine, d'avoir remporté 10 titres nationaux et surtout, d'avoir lancé une malédiction qui tient toujours sur un club qu'il avait décidé de quitter. Eh bien, personne d'autre que Bella Gutmann. Bella Gutmann est née à Budapest en 1899 de parents juifs, Abraham et Esther, qui sont tous deux profs de danse. Ça lui donnera peut-être la grâce pour jouer. Il commence sa carrière au poste de milieu de terrain du MTK Hungaria, mais en 22, il part s'installer à Vienne pour échapper à l'antisémitisme du régime de l'amiral Horthy, qui fait plus de 3000 morts juifs dans les années 1919 à 1921. La terreur blanche, comme on appellera cette période. À Vienne, il va jouer à l'Accor de Vienne, un club juif dont il va porter les couleurs pendant 4 ans. Et puis en 26, première petite chose surprenante, l'équipe de l'Accor Vienne embarque pour New York et entame une tournée de matchs aux États-Unis. Le 1er mai, 46 000 personnes assistent à un match entre l'équipe de Vienne et une sélection américaine. Ce sera même le record américain d'affluence dans un stade jusqu'en 1977. Et là, une fois la tournée terminée, Gutmann, qui était le joueur le plus en vue de la cohorte, décide avec plusieurs de ses coéquipiers de rester à New York. Il va jouer plusieurs saisons dans des clubs américains et à New York. Et pour vous dire que le type était un petit peu spécial, ou en tout cas particulier, pendant son séjour new-yorkais, Gutmann, en plus de jouer au football, enseigne la danse, achète un bar clandestin, investit dans le marché boursier et perd quasiment tout lors du crack de Wall Street en 29. Il va jouer 6 ans donc aux États-Unis, fait une dernière pige à l'Accor de Vienne en 33 et met un terme à sa carrière. Et c'est à partir de là, à partir du moment où il entame sa carrière d'entraîneur, que sa légende va se forger. Dans les années qui précèdent la guerre, il entraîne déjà en Autriche, aux Pays-Bas, en Hongrie. Et son premier gros succès vient à Lujpest lors de la saison 38-39 où il remporte la Ligue Europa et la Mitropa Cup, qui était une coupe d'Europe qui rassemblait les pays d'Europe du central. Il va donc avoir ses premiers succès, mais bien sûr, peu de temps après, des lois anti-juives sont introduites et il perd son emploi. En mars 44, les nazis occupent la Hongrie et pour échapper au sort funeste que vont connaître des milliers de Hongrois, Gutmann se cache dans un grenier à Ujpest où il est aidé par son beau-frère qui n'est pas juif. Et il va être par la suite arrêté et envoyé en camp de travail nazi près de Budapest où il est torturé. En décembre 44, il parvient à s'évader, juste avant d'être envoyé à Auschwitz, en compagnie d'Ernst Erbstein, un autre entraîneur juif hongrois célèbre. Alors une fois la guerre terminée, il reprend du service, d'abord en Hongrie, puis en 46, il rejoint le club de Siokanul. Et pour vous dire que cet entraîneur est particulier, eh bien, lorsqu'il signe là-bas, en raison des pénuries alimentaires, Gutmann demande à ce que son salaire soit payé en légumes. Comme ça, au moins, il aura de quoi manger tous les jours. Mais il décide de quitter le club un peu de temps après parce qu'un directeur du club a tenté d'intervenir dans la composition. En 47, il retourne en Hongrie et remporte un nouveau titre. Il a encore une autre petite anecdote. Il veut faire sortir un joueur alors qu'il entraîne Lujpest, un arrière qui joue un très mauvais match. Mais le capitaine de l'équipe, qui est Ferenc Puskás, pousse le joueur à rester sur le terrain. Le joueur reste sur le terrain. Gutmann décide alors de quitter son banc. Il monte en tribune avec un journal hippique et il démissionne le lendemain parce que ça ne lui va pas. Il va entraîner l'AC Milan et gagner et se faire licencier parce que c'est aussi une de ses caractéristiques. C'est à lui qu'on doit la citation. La troisième saison, ça ne va jamais. Et c'est vrai qu'il fait rarement plus de trois saisons. Il part au Brésil où il part d'abord en tournée avec son club, mais comme 30 ans auparavant, il va rester au Brésil où il va entraîner pendant quelques années et il va notamment contribuer à populariser le 4-2-4 qui a été inventé par d'autres Hongrois, mais qu'il popularise très rapidement au Brésil à tel point que le Brésil va devenir champion du monde en 1958 en utilisant cette tactique importée, si on veut, par Gutmann. Mais c'est au Portugal que sa légende va se faire. Il arrive au Benfica, ne s'embarrasse pas, licencie une vingtaine de joueurs, promeut des jeunes et remporte tout simplement le championnat en 60-61. Sous sa direction, le Benfica remporte deux Coupes d'Europe d'affilée en battant le Barça et en battant le Real. Mais on arrive maintenant à la fameuse malédiction de Béla Gutmann. Alors après la finale de Coupe d'Europe 62, Gutmann, estimant avoir fait un bon travail, va demander au conseil d'administration une augmentation. Et malgré ses nombreux succès, cette augmentation lui est refusée. Il décide alors de quitter le club et déclare en quittant le club « Je m'en vais en vous maudissant. À partir d'aujourd'hui et pendant 100 ans, Benfica ne remportera pas une Coupe d'Europe. » Et la malédiction opère dès le départ de Gutmann, s'étendant même sur la C3, puisque depuis son départ, Benfica a échoué 8 fois en finale et n'a jamais remporté de Coupe d'Europe. Alors, en 90, on dit que Eusebio, la finale se passait à Vienne, et Eusebio, qui accompagnait l'équipe de Benfica, qui va perdre contre l'AC Milan, est allé prier sur la tombe de Gutmann en demandant à ce que la malédiction soit brisée. Alors, on ne sait pas vraiment s'il y a pas mal de mystères autour de cette malédiction. Est-ce qu'il l'a vraiment dit? Est-ce qu'il ne l'a pas dit? En tout cas, on aime à croire que ça existe. Ça apporte encore un peu plus de piment à cette histoire. Gutmann, après son départ, va continuer à entraîner jusqu'en 73 et il meurt en 81. Alors la puissance de sa malédiction va-t-elle continuer à assommer le Benfica? Il est possible que la malédiction ait été enfin brisée, puisque sachez que cette année, l'équipe des moins de 19 ans de Benfica est devenue championne d'Europe en remportant la Youth League. C'est donc le premier succès européen de Benfica en 60 ans. Alors attention à Benfica cette saison.
Ah bah espérons-le.
Magnifique PSG histoire, vraiment.
Béla Gutmann. Écoutez, on a fait le tour de la question, ça je sais pas, mais en tout cas on est arrivé à la fin de cette émission. J'ai eu beaucoup de plaisir à présenté, animé en votre compagnie, Steve et Didier.
Plaisir plus que partagé, merci à tous.
Exactement.
Exactement, et bien écoutez, on se retrouve, je suis un peu perdu avec le calendrier. Dans 3 semaines, et ben voilà, on pourra parler des qualifiés, des éliminés de la Ligue des Champions, comme ça. Allez, d'ici là.
Bonne année, Steve.
Bonne année à tout le monde, à nos auditeurs. Et on vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve dans 3 semaines. Merci beaucoup Didier, merci Steve, bye bye.
Bye bye.
Bien compris, tu danses vers les autres rires, tout au ralenti, s'enfuit, s'avance vers nos zones grises. Je dors quand tu pars et je sors quand tu tardes. Mon rôle quand tu râles est de calmer ton vacarme. Nos corps qui s'éteignent, toi tu mords quand tu m'aimes, moi je meurs quand tu m'aimes. Ah. Je quitte. Ah.
mais je ne te quitte pas. Oui, je quitte. Mais je ne te quitte pas. Je passe tes passifs. Je t'embrasse un instant furtif. L'ombre de ton nom brille dans la chambre. Toutes celles que je te chante. Tu dors quand je parle et tu sors quand je bavarde. Je suis seule, on part et je me pose et je chiale et nos corps qui s'éteignent. Moi je mords quand je t'aime, je meurs mais je t'aime. Je quitte, mais je ne te quitte pas. Je quitte, mais je ne te quitte pas.